Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici le Seigneur qui vient, nous allons recommencer, comme tous les ans, à le méditer. Ce Seigneur qui vient, et saint Luc nous donne à méditer le retour du Fils de l'homme, avec gloire, mais aussi avec grand fracas. Alors je vous propose de voir d'une part cette fin des choses, en rapport à Dieu qui vient, et d'autre part notre vie dans ce dispositif, pour garder un langage militaire, ou plutôt comment notre cœur se pose dans ce drame humain et cosmique, pour prendre un langage plus spirituel. Tout d'abord, la fin de toute chose est Dieu. Il y a une fin, et nous nous y préparons. Il y a une fin parce qu'il y a eu un début. C'est la chose la plus effrayante qui vienne à l'esprit de l'homme. Certains ont tenté avec un certain acharnement de penser alors que peut-être le monde serait éternel et que voilà, il n'y aura pas de fin. Hein, c'est une consolation. On dit souvent que la religion est une consolation. Eh bien, les illusions cosmiques de la raison déraisonnable sont aussi une consolation et en plus, elles sont fausses. Alors, non, il va y avoir une fin parce qu'il y a eu un début. C'est la chose la plus effrayante que nous sachions dans la science et nous approchons ce début du Big Bang aux théories pré-Big Bangesques. Nous savons qu'il y a eu un début, donc il y aura une fin. Donc il y a autre chose, une cause où il n'y a rien. Aut cause, aut nihil. Eh bien oui, nous regardons en face cette fin des choses, cette cosmologie, et nous voyons venir le début du monde dans cette fin du monde. Pour nous, la cause initiale est aussi la cause finale. Ce qui a causé une chose, c'est aussi ce vers quoi elle s'avance. Car s'il y a bien une raison au début du monde, c'est cette raison qui a voulu le monde et qui donc sera à la fin du monde, puisqu'elle l'a voulu pour cela. Voilà donc cette contemplation, une fois de plus, la fin du monde n'est pas arrivée la semaine dernière, c'est-à-dire à la fin de l'année liturgique, où nous avons contemplé le Christ en gloire, et qui est une manière de contempler cette fin. Eh bien ici, ce n'est pas uniquement pour contempler la fin du monde que saint Luc nous la rappelle, c'est pour nous donner, une fois de plus, une année de plus, de l'espérer. Le temps de l'Avent qui vient, l'Adventus, le temps où Dieu va advenir en nous, nous allons méditer cette venue du Christ dans la chair, cette venue du Christ dans le monde, cette venue éternelle qui va se consommer à la fin des temps, ce Fils de l'homme sur les nuées, c'est un temps que l'Église qualifie, non sans humour, par un oxymore, de joyeuse pénitence. Joyeuse pénitence qui explique la couleur pas tout à fait violet foncé, mais parme, des ornements normalement de l'Avent, pour ceux qui sont adeptes des nuances, et donc une pénitence qui nous fait déjà savoir que ce renoncement à nous-mêmes, cette contemplation de la fin, donc en nous aussi de toute fin, et de ne pas nous attacher démesurément aux choses de ce monde, parce qu'elles passent, et c'est déjà une joie profonde, car nous savons qu'au-delà de ce qui passe, il y a Dieu qui demeure. Dieu est l'immuable, voilà ce que nous méditons dans l'Avent, Dieu qui vient dans le monde, qui rend immuable le bien de ce monde parce qu'il est venu dedans. Dieu qui est vraiment l'être même, sans changement, voilà ce que nous méditons une fois de plus. Mes bien chers frères, la liturgie qui nous ramène sans cesse à Dieu au cours des cycles liturgiques, qui recommence et recommence sans cesse, n'ont pas d'autre but que d'introduire notre intelligence et notre foi dans ce Dieu immuable pour qui le temps qui passe n'a pas de prise, pour qui notre existence est déjà une promesse de réalisation. Voilà ce que nous allons vivre. Alors évidemment, nous sommes invités spirituellement à revivre ce temps réellement, à nous plonger les yeux devant la crèche, à nous faire nous-mêmes un élément de cette crèche où Dieu va venir pour que vous puissiez le voir. L'habitude ancienne, ancestrale même, de constituer des crèches est une sainte habitude où nous tentons petitement de nous représenter la scène qui a eu lieu il y a 2000 ans, Cette scène où le Christ est venu dans une étable naître, il nous faut 4 semaines, et c'est très court, pour essayer de nous-mêmes être un personnage de cette crèche. Peut-être avez-vous eu cette habitude dans votre famille, que les enfants ont chacun un petit mouton, et en fonction des bonnes actions qu'ils font, ils avancent vers la crèche, ou ils reculent, si jamais ce n'était pas le cas. Eh bien, devant cette habitude enfantine et bon enfant, il y a une disposition spirituelle très profonde qui donne à celui qui avance son mouton de se rendre compte qu'il fait partie de ce drame cosmologique où le Christ vient, où je vais avoir une place, où il va réaliser, pas seulement dans le monde, mais en moi-même, cette gloire promise. Alors, mon deuxième point se porte sur notre attitude, car l'évangéliste nous en donne plusieurs. Il me semble qu'il nous donne 2 attitudes profondes. 2 attitudes pour agir et 2 attitudes pour recevoir. D'abord, il dit « soyez sur vos gardes ». C'est un langage militaire, je n'y peux rien. « Garde à vous », c'est ce que ça veut dire. « Prenez garde, soyez sur la brèche, soyez toujours prêts ». Mais de quoi devons-nous nous garder ? Nous devons nous garder du mal. Et si nous devons être sur nos gardes et pas endormis, eh bien c'est pour justement pouvoir discerner entre le bien et le mal. Pouvoir discerner là où moi je vais avancer vers Dieu, là où le Christ vient, et me garder des chemins pervers, me garder du mauvais qui va m'éloigner de cette crèche bénie où le Seigneur va se faire si petit. Soyez sur vos gardes et soyez prêts. Soyez prêts à toute heure, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez prêts, c'est le langage des scouts, un peu aussi emprunté à l'armée, il faut bien le dire. Soyez toujours prêts, c'est la devise même des scouts, toujours prêts. Prêts, il ne s'agit plus ici de discerner entre le bien et le mal, il s'agit d'être prêt à choisir le bien. Car c'est un choix encore plus difficile. Choisir, déterminer le bien et le mal, souvent dans notre vie, n'est pas si compliqué. Le plus dur, c'est de le réaliser, c'est-à-dire de ne pas succomber au mal. Mais choisir le bien le meilleur, voilà qui est encore plus difficile. Et pour choisir le bien le meilleur, il faut être prêt par avance à le choisir. Je veux dire par là qu'il faut par avance abandonner toute chose pour suivre ce que notre intelligence, ce que l'illumination de notre cœur nous montrera comme étant le meilleur. Voilà l'attitude que saint Ignace de Loyola recommande dans la disposition du choix. Soyez prêts à tout, abandonnez tout par avance et soyez prêts à tout choisir, quoi que ce soit, si c'est ça, le meilleur. Le meilleur, c'est ce qui me mène le plus sûrement à Dieu. Et alors, je veux par avance être prêt à le choisir. Voici les 2 attitudes qui nous sont données pour l'action, et il y a 2 attitudes qui nous sont données pour recevoir, car on ne donne que ce qu'on a. C'est ça, c'est un adage non pas militaire, mais juridique. Il nous faut veiller et prier en tout temps. Veiller, comme l'a dit l'évangéliste, très clairement, pour ne pas s'endormir. C'est une évidence. La veille de la nuit, c'est ce qui me tient en éveil, c'est ce qui m'empêche de m'oublier, c'est ce qui m'empêche de m'abandonner. Veiller les uns sur les autres, veiller sur un malade, veiller sur son frère, c'est une attitude, et veiller sur sa propre âme, une attitude qui nous permet de voir venir Dieu en tout temps. Je vous recommande chaudement, dans toute communauté, de veiller les uns sur les autres, pour être sûr que vous n'allez pas vous endormir, car si Pierre, Jacques et Jean s'endorment au jardin des Oliviers, le Christ, lui, a veillé. Il nous faut, mes bien chers frères, être le Christ pour les autres, c'est-à-dire il nous faut veiller pour qu'ils ne s'endorment pas, ou plutôt qu'on ne les endorme pas avec les biens de ce monde, avec ce qui peut nous faire illusion un temps, ce qui peut nous abattardir, nous alourdir, nous animaliser, nous dévaloriser, Bref, tous les biens de ce monde, je ne saurais qui sont tous, qui peuvent être tous bons par ailleurs, mais dont la consommation irréfrénée et surtout l'adoration intérieure nous rend pire que des bêtes. Oui, il faut veiller pour ne pas laisser ce monde prendre sur nous, sans cesse nous parler, nous endormir de paroles, de musique, de bruit perpétuel. Je me souviens un jour d'un chemin de croix où un paroissien avait invité une professeure, quelqu'un qui travaillait avec elle, une consoeur, voilà, et c'était d'ailleurs une musulmane. Et alors il avait un peu peur parce que quand même le chemin de croix c'est la croix, la croix, la croix, la croix, pour un musulman il n'y a rien de pire. Et alors il s'était dit qu'est-ce qu'elle va me dire, etc. Et touché par la grâce, mais très étonnamment, cette personne dit à son collègue qui lui demande si ça s'était bien passé et qui lui dit « mais j'ai découvert qu'il existait du silence ». Et oui, dans ce monde effréné où tout est toujours bruit, le silence est précieux pour veiller. Veillez et priez pour affermir votre cœur, dit l'évangéliste. La prière, c'est un repos, mais ce mot est piégé. Ce n'est pas un repos pour dormir. D'ailleurs, le Christ dit aux apôtres, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, c'est-à-dire ne dormez pas. Prier, ce n'est pas s'abandonner en ne faisant plus rien. Prier, c'est se reconstituer. Voilà ce qui se passe dans votre prière. Dieu vous refait. Dieu vous, je le dis aux enfants qui comprennent bien, mais peut-être que vous allez bien comprendre, c'est comme l'iPhone qu'on branche la nuit pour qu'il se recharge. Eh bien, la prière, c'est ça. C'est ce qui nous met en contact immédiatement avec Dieu. Que vous vous en rendiez compte ou pas, pour l'iPhone c'est plutôt discret, que vous ressentiez quelque chose ou pas, dans la prière, Dieu vous reconstitue. Il vous rend de nouveau, possiblement disponible à sa grâce. Entrez, mes bien chers frères, dans ce temps de l'Avent, où nous commençons et recommençons sans cesse. En matière spirituelle, il n'y a pas de malins, ou plutôt les malins sont des orgueilleux, ce ne sont pas des hommes spirituels. En matière spirituelle, nous allons de commencement en commencement, c'est pour ça que nous restons petits, c'est pour ça que nous restons des enfants, c'est pour ça que nous verrons Dieu. Ainsi soit-il.